L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion. L'UNAFAM, c'est l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques. Cette association a publié il y a quelques mois un baromètre réalisé auprès de ses adhérentes et adhérents et en particulier des frères et sœurs des personnes concernées par la maladie psychique. Et 6 répondants sur 10 estimaient que la maladie de leurs proches est représentée de façon stigmatisante et anxiogène dans les médias. Pour beaucoup, il reste difficile d'aborder ce sujet, d'en parler librement. Seuls 44% des personnes qui ont répondu déclarent pouvoir l'évoquer facilement, par peur du regard des autres, des idées reçues véhiculées sur les maladies psychiques et par peur de la stigmatisation, ces personnes et leur entourage se taisent. Et pour 4 personnes sur 10, l'entourage a réagi avec peur et prise de distance à l'annonce de la maladie. Ce tabou les empêche de demander de l'aide, les condamne trop souvent à souffrir en silence et à s'isoler. L'UNAFAM évoque ce miroir déformant qu'on tend aux personnes qui vivent avec des troubles psychiques, qui peut aussi altérer profondément leur estime d'elles-mêmes, qui les pousse bien des fois à devenir invisibles. Alors avec nous pour en parler aujourd'hui, il y a Orphée Recoing que vous connaissez parce qu'il est déjà venu à la radio. Il est président du GEM, groupe d'entraîne mutuelle L'Envol à Quimper. C'est justement un groupe qui rassemble des personnes qui sont atteintes ou pas d'ailleurs de maladies psychiques, mais en tout cas qui souffrent d'isolement. Et puis un représentant de l'UNAFAM, Pascal Durand. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors la première question, alors qui est peut-être la plus personnelle finalement, c'est quels sont les préjugés auxquels vous avez été confrontés l'un et l'autre? Alors Orphée...
J'ai récemment posé la question à un panel de pairs. L'annonce du diagnostic et la publication du diagnostic peut aller jusqu'au licenciement de la personne.
Ah, il y a eu des cas dans
le licenciement. GEM, ouais. Alors pas au GEM L'Envol, mais dans d'autres GEM, il y a des personnes qui ont été simplement licenciées.
Avec explication ou pas?
Non.
Ah ouais, pas vraiment. D'accord. Et d'autres, sinon, plus ordinaires, entre guillemets
Alors.
Pas forcément verbalisé, d'ailleurs, ça peut être.
Alors, il y a une forme de. D'abord de peur, comme si c'était contagieux. Comme si le fait de fréquenter une personne en situation de handicap psychique allait perturber la propre santé psychique. Dans l'interrelation. Donc, il y a ça. Il y a aussi le déclassement. Et à partir du moment où vous avez un diagnostic, vous n'êtes plus considéré comme compétent. Vous pouvez avoir fait des études. J'ai un ami qui est ingénieur, qui est schizophrène, mais ingénieur. Pour trouver du travail comme ingénieur, ça va être très difficile. C'est-à-dire que, malgré son diplôme... Donc, la plupart des gens qui sont en situation de maladie psychique les cachent.
Mais c'est ça. Oui. Concrètement, là, votre ami, c'est ça, en fait. Finalement, il a intérêt à rien dire du tout, quoi.
Absolument. Mm-hmm. Et donc, dans ce cas-là, de ne pas pouvoir bénéficier des aménagements de poste que le handicap devrait lui permettre d'avoir.
Ah oui.
Donc, ça le met en porte-à-faux, c'est-à-dire qu'il a les compétences. Maintenant, il a des temps de repos qui sont nécessaires, de récupération qui sont différentes de celles des personnes ordinaires, entre guillemets. Et donc, il ne bénéficiera pas d'aménagement de poste. Et ce sont des handicaps invisibles. Hein, donc, et c'est pas si simple que ça de les cacher, en fait.
Mais c'est ça, tout à fait. Oui, oui. Et vous, Pascal Durand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre expérience? Alors, c'est quelqu'un.
Bah, je suis leur papa.
Ouais, c'est donc, ça.
Non, mais c'est vrai que d'abord, le premier préjugé, c'est quand votre enfant tombe malade, c'est que nous-mêmes, on porte des préjugés. Donc, le regard qu'on va porter sur la maladie, il est aussi un peu le regard de la société. Donc, on a nos propres préjugés qu'il faut s'efforcer de lever. C'est que nous-mêmes aussi, on doit sortir du déni. Et puis,
c'est ce qui s'est produit quand vous avez appris le diagnostic pour votre enfant.
Oui, parce qu'on n'est pas préparé en fait. Les sujets de santé mentale, c'est des sujets qui sont très loin, qui ne touchent que les autres. Donc quand ça vous arrive, vous, c'est très déstabilisant et vous avez les préjugés, ces constructions sociales, c'est inhérent à une société en fait. Donc on les porte nous-mêmes. Donc il faut aussi, nous, parents, avoir ce processus de déconstruction du préjugé pour pouvoir en fait aider son gamin. Mmh. Et c'est pas facile. Et un exemple, moi j'ai, comme la question est difficile, mais une anecdote, c'est que quand mon fils veut reprendre ses études, il était en école de commerce quand il tombe malade, il veut reprendre ses études et il veut faire une licence de psycho.
Et oui, ça peut se comprendre, oui, tout à fait.
Et son psychiatre dit, non, mais le laissez pas aller là-dedans. Maintenant, il faut qu'il s'oriente vers de l'entretien, d'espace vert, du jardinage, et il sera pas capable de le faire. Puis finalement, il a fait sa licence de psycho, aujourd'hui il travaille, il est père aidant, il est... Donc si on ne sort pas, en fait, de cette vision d'une maladie chronique qui va vous tirer vers le bas, c'est toute l'idée aussi du rétablissement, c'est que les personnes qui ont des troubles peuvent se rétablir et vivent une vie tout à fait satisfaisante avec ces troubles.
Oui, c'est les traitements. Enfin, c'est ça. Quand vous dites se rétablir, ça veut dire quoi, par exemple ? C'est pas forcément guérir, entre guillemets, c'est ça ?
Non, la notion de rétablissement, c'est reconstruire. En fait, c'est un choc. Pour une personne qui a des troubles, la prise de conscience des troubles, c'est un choc qui est extrêmement violent. Et en fait, c'est arriver à retrouver le pouvoir d'agir, le pouvoir sur soi-même. Et en fait, avoir un processus de redéfinition de soi qui est très compliqué. En fait, on a des personnes en face de nous qui vont redéfinir des compétences, qui ont un champ de compétences qui est extrêmement riche, qui serait extrêmement intéressant aussi d'exploiter. Parce que ce sont des personnes qui arrivent à se redéfinir, à redéfinir leur personnalité et à reconstruire en fait une vie qui peut être tout à fait satisfaisante dans un contexte social qui est compliqué. Mmh. Et c'est vrai que la problématique de la stigmatisation dans notre société, qui est plutôt très fort dans la société française, parce qu'il y a des sociétés...
Ah oui, c'est ça. C'est vrai que je crois qu'aux États-Unis, par exemple, ça passe beaucoup mieux, entre guillemets, c'est ça.
Vous allez dans les pays du Nord, vous allez au Canada, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, la problématique de la santé mentale est beaucoup mieux abordée et beaucoup moins stigmatisée. Et en fait, les processus de rétablissement sont mieux définis et en fait, les taux de succès aujourd'hui, par exemple... vous prenez les statistiques canadiennes, 80% des personnes qui ont des troubles sont dans l'emploi et sont insérées. Mmh. En France, on doit être à 30% à peu près, quoi.
Orphée, Recoin, cette stigmatisation, finalement, alors justement, dans le j'aime l'envol, vous êtes un peu dans la démarche inverse, vous voulez ne plus être invisible, sans pour autant être défini complètement par votre handicap. Vous n'êtes pas que un handicap psychique.
Alors, non, les groupes d'entraide mutuelle sont des groupes de compensation du handicap d'accès à la vie sociale. Donc, l'objet est vraiment précis, très large, mais précis. Et les personnes qui viennent au GEM n'ont pas forcément du tout envie que l'on sache qu'ils ont des troubles psychiques.
Ah ouais.
Alors, moi, je fais un peu exception à la règle, dans le sens où, en revendiquant mon diagnostic, mais en me mettant en lumière, c'est de tordre le cou, justement, à ces préjugés, en disant, oui, j'ai décompensé, j'ai eu de lourds problèmes, j'ai un parcours psychiatrique, mais... Ça va bien, merci. Et vous ?
Et puis finalement, vous étiez heureux d'avoir le diagnostic. Je crois me rappeler que vous nous aviez dit ça. Finalement, c'était plutôt une bonne chose aussi d'avoir un diagnostic.
Ouais, parce que ça permet d'abord de comprendre l'origine du problème. Ça permet de mettre des mots et de rationaliser les choses. De se dire, oui, je suis fou, mais c'est pas si grave que ça. Et de mettre ensuite en place des stratégies de compensation du handicap et de trouver sa zone d'adaptabilité au monde et à la société. Mmh. Parce que ça, c'est très compliqué. Ça peut être...
Oui, ça peut, oui, tout à fait. Même si, on va voir, ça évolue quand même. Et donc, ouais, vous disiez, la plupart des gens, ils ne préfèrent pas, finalement, ils restent quand même enfermés. Et là, c'est lié à l'histoire de la psychiatrie.
Alors, entre autres, c'est-à-dire qu'en France, on vient d'une politique asilaire. Les gens entraient en psychiatrie, ils étaient enfermés, ils n'en sortaient pas, et c'était des conditions semi-carcérales, voire carcérales purement et simplement, où on mettait une catégorie de la population étiquetée dément, malade psychique, et les gens ne sortaient plus de l'hôpital.
Ouais.
Sinon, très rares exceptions, mais les gens ne sortaient plus de l'hôpital. Et aujourd'hui, cette politique-là est terminée. C'est-à-dire qu'on est plus du tout dans des prises en charge aussi long cours, sauf dans certains cas, parce qu'il y a des psychopathologies qui sont tellement lourdes et tellement handicapantes que les personnes ne sont pas en capacité de s'adapter au monde extérieur à l'hôpital. Et il y a des gens qui passent leur vie à l'hôpital. Mais la plupart des prises en charge sont des prises en charge. L'hospitalisation moyenne à l'EPSM Gourmelin, je crois que c'est 15 jours, 3 semaines.
EPSM, établissement public de santé mentale.
Total, c'est ça, Finistère
ouais.
Sud.
Ouais.
C'est une quinzaine
ouais,
de jours.
Ça, ouais.
Voilà, c'est-à-dire qu'on rentre à l'hôpital, on reçoit. Alors. C'est une période de rupture avec le monde extérieur et donc aussi une possibilité de se repositionner par rapport au monde extérieur. Mais on y reçoit des soins, une attention particulière. Mais le but, c'est de sortir de l'hôpital.
Bien sûr.
La vie, elle est en dehors.
Mmh. Ouais. Et d'où viennent aussi ces préjugés, d'après vous, Pascal Durand? On a parlé donc de l'histoire de la psychiatrie, mais est-ce qu'il y a, vous voyez, d'autres origines sur ces préjugés, ces idées reçues, ces stéréotypes, je ne sais pas comment on peut les appeler
Je crois qu'effectivement, il y a la représentation, par exemple, quand on parle de la schizophrénie, on va souvent parler de dédoublement de la personnalité, ce qui est une hérésie, puisqu'en fait, ça a été influencé, bon, on voit les films Psychose de Hitchcock et ainsi de suite, qui vont construire une représentation de ces troubles, mais qui est souvent totalement erronée. C'est pareil quand on entend le problème des faits divers. Bon, il faut savoir qu'en fait, les personnes qui ont des troubles, même quand on prend la problématique de la schizophrénie, aujourd'hui, je crois que dans les problématiques de criminels, il y a 1% de cas de schizophrénie dans des problématiques criminelles. Il faut savoir que la schizophrénie touche 1% de la population. Donc, on est dans des statistiques. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une surcriminalité. Donc
ça représente l'essentiel de la population.
Mais par contre, effectivement, quand il y a un fait divers où ce fait divers est monté en épingle, après, on entend tout et n'importe quoi sur les télévisions, sur les radios. Et tout ça, ça participe à une stigmatisation. Et on va dire, la dépression, c'est des gens qui ne veulent pas travailler. Ben non, la dépression, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Y a aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup des problématiques d'addiction. L'addiction, c'est une maladie. Ce n'est pas uniquement un problème de volonté. Hein. Je pense que y a un bruit de fond.
Mmh.
Et puis, ce bruit de fond, en fait, le groupe dominant va exclure sur la base de ce bruit de fond, avec une méconnaissance complète de la réalité, en fait, de ce que sont ces troubles, ces maladies, ces personnes. Et la problématique, c'est que en fait, ça contribue aussi à ce que ces personnes, elles se referment sur elles-mêmes et qu'elles deviennent invisibles.
Mmh. Oui, c'est ça, bien sûr, ouais, tout à fait. Orphée, oui.
Alors, il y a aussi dans l'histoire de la psychiatrie en France, l'histoire de la psychanalyse qui a été extrêmement problématique et qui continue à l'être. Je n'ai pas envie de casser du sucre sur le dos de personnes qui sont généralement de bonne volonté, mais globalement... dans le cadre de la schizophrénie, par exemple, ou de la prise en charge de l'autisme en France, le poids de la psychanalyse a été dramatique. Et en plus de ça, c'était sur des fondements extrêmement douteux.
C'était pas scientifique, c'est bien le problème.
Et puis ça a mené à une stigmatisation des mères en particulier, a été d'une violence inouïe, avec des paroles comme quoi les mères, les enfants d'autistes étaient moins bien traités que les gens dans les camps de concentration. C'est allé jusqu'à des paroles aussi violentes que ça. Donc on a affaire à des co-constructions à la fois les représentations sociales qui nourrissent des représentations psychanalytiques, qui nourrissent des représentations psychiatriques, qui nourrissent elles-mêmes les auto-représentations des personnes en situation de handicap psychique, parce que on se dit, ben, je suis peut-être dangereux, moi.
Ah, et c'est ça, on se pose la question. J'imagine, ouais. Alors qu'en fait, en plus, pour ce qui concerne la schizophrénie, je crois que finalement, le danger, c'est plutôt pour soi-même. Enfin, les personnes sont plutôt...
Oui, alors, les schizophrènes sont plus susceptibles d'être victimes de crimes que d'être auteurs de crimes.
Ah, victimes de crimes ou de tentatives de suicide ou de suicide
De délits, de victimes de crimes, déjà.
Enfin, ah ouais. Pourquoi
Parce qu'une personne qui est en crise psychotique et qui fait un épisode de décompensation, elle peut suivre n'importe qui, elle peut se mettre dans des situations dangereuses socialement. Et là, elle vit dangereusement, parce qu'elle n'a pas forcément conscience du danger, justement, à ce moment-là.
Il faut savoir qu'en fait, ils sont cinq fois plus agressés, parce que ce sont des personnes qui peuvent avoir des comportements un peu différents. Ils sont cinq fois plus agressés que la population normale.
Oui.
Et ils se suicident 13 fois plus.
Oui, c'est ça, oui. Voilà.
Donc en fait, s'il y a dangerosité, c'est surtout une dangerosité pour eux-mêmes. Ça, c'est jamais relevé, en fait. Mmh. Et c'est des gens qui subissent beaucoup plus que le reste de la population. Parce qu'ils sont différents, ils peuvent avoir des comportements un peu différents. Et la stigmatisation fait qu'ils sont très fragiles.
Mmh. Et puis une conséquence aussi de cette invisibilisation, c'est qu'il y a pas y a des défauts de traitement, j'imagine, en plus, quoi. C'est ça, non ? Alors que ça peut être vraiment bien pris en charge, la schizophrénie, en l'occurrence.
Oui, les traitements ont fait énormément de progrès ces 40 dernières années, c'est inouï.
On peut vivre totalement normalement, finalement, quasiment, quoi.
Ça dépend, mais on peut vivre quasiment normalement, oui.
Et on peut travailler, donc votre fils, Pascal Durand, travaille.
Oui, il travaille, mais alors, ce qu'il faut, c'est... Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des troubles, hein, qui soient bipolaires, schizophrènes, ou ainsi de suite. Il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles. Qui travaillent, en fait. Mais par contre, le travail ne doit pas être une injonction. C'est qu'en fait, il y a, comme le disait Orphée, en fait, il faut que les postes soient adaptés à leur handicap. Il y a quand même un handicap. Il y a un handicap de fatigabilité, il y a un handicap de résistance au stress. Donc, en fait, il faut qu'ils aient des jobs qui soient adaptés, en fait, à leur handicap. Le problème, en fait, c'est de prendre en compte ce handicap et de ne pas l'ignorer.
Est-ce que c'est par exemple si les burn-out frappent plus des personnes qui ont une fragilité psychique on ne sait pas, c'est peut-être pas facile d'avoir des statistiques là-dessus.
Le burn-out, c'est reconnu depuis de façon relativement récente, et ça a suivi l'évolution du travail et du stress au travail, en fait. Il y a 60 ans, on ne parlait pas de burn-out. Hein. Mmh. Je veux dire, c'est le management contemporain à l'américaine, avec des open space, avec un manager qui vous suit à la minute, qui vérifie systématiquement vos résultats. Et quand vous surinvestissez dans votre poste, vous arrivez à un moment de limite... là, presque neuronale. Je veux dire, la surcharge psychique est tellement forte que le cerveau explose, purement et simplement.
C'est reconnu comme maladie psychique, d'ailleurs, maintenant,
Non,
c'est pas dans le DSM, en fait. Il y a...
DSM diagnostic... manuel diagnostique.
c'est le manuel maladies. De référence, moi, qui est très discuté, mais en fait, qui recense les symptômes et qui pose des diagnostics, donc c'est quelque chose qui est très discuté, mais non, le débat aujourd'hui, c'est de se dire, il y a un continuum, en fait, parce qu'on a tous, à un moment donné, des troubles, c'est-à-dire qu'on est tous capables, à un moment donné, d'entendre une voix, on va entendre, tiens, tu m'as parlé, mais non, je t'ai pas parlé, mais je l'ai bien entendu, ou quand on voit, par exemple, les skippers du Figaro, hein, ils dorment pas.
Ils sont des hallucinations.
Ils ont des hallucinations. Et la question, c'est dans ce continuum... on va être en fatigue professionnelle, et c'est la question, c'est à un moment donné comment est-ce qu'on bascule dans ce qu'on va pouvoir catégoriser comme une maladie mentale. Et le burn-out, c'est un peu ça, en fait. C'est du surinvestissement, c'est je peux tout porter. Moi, je me souviens avoir eu une collègue qui avait fait un burn-out et elle pensait être capable de tout porter. Et puis, à la fin, ça craque, tout s'effondre d'un coup. Et après, c'est très, très dur de revenir. Mm. Et c'est la problématique, c'est que je pense que la maladie mentale, ça peut toucher tout le monde. C'est parce ça. Que c'est multifactoriel, il y a des facteurs génétiques, environnementaux, enfin on peut pas les rattacher uniquement à un facteur, et que personne n'est à l'abri. Mmh. Donc il faut faire attention à soi.
Par exemple, Orphée, les addictions, typiquement, c'est quelque chose qui pourrait presque toucher tout le monde. Enfin.
Ah oui. Ben en France, on est à 87% de personnes qui boivent de l'alcool, qui sont pas forcément alcooliques d'ailleurs, hein, mais 87% de personnes qui boivent de l'alcool, c'est une drogue dont on connaît les effets à long terme, c'est très bien renseigné maintenant, et les gens peuvent tomber dans l'addiction sans s'en rendre compte. Or, c'est une consommation... récréative, ça peut devenir une consommation pathologique qui va induire éventuellement jusqu'à la perte du travail, qui va induire des comportements éventuellement violents. Y a plus de comportements violents sous alcool que de comportements violents de psychotiques.
Hein, ouais, c'est ça. Oui, c'est pas une psychose, mais c'est une maladie psychique quand même, l'alcoolisme. Enfin, l'alcoolisme.
C'est une maladie psychique, c'est-à-dire l'addiction est une maladie psychique.
Parce que le cerveau est modifié par la substance, c'est ça, enfin, quelle qu'elle soit, c'est ça.
C'est ça, tout à fait. Mm-hmm.
Ouais, en fait, ça modifie le. Quand on voit un exemple très simple, l'addiction, vous gagnez et vous avez une émotion assez intense qui va vous amener un très fort satisfaction.
Au jeu en général, d'ailleurs, pas seulement les jeux vidéo.
Mais
hein,
non, mais
d'accord.
Non, mais c'est un exemple d'addiction et en fait, le truc, il est là, c'est que vous avez un événement qui vous apporte une très forte satisfaction et vous allez rentrer dans un cheminement. Et finalement, on explique ça, le mécanisme de récompense du cerveau avec l'hormone de la dopamine. Et le fait, à un moment donné, vous allez rechercher en fait cette émotion et vous allez construire une addiction. La problématique, c'est que la répétition va faire que vous allez modifier votre circuit de récompense et qu'à un moment donné, il faut en prendre de plus en plus pour avoir de moins en moins de récompenses. Et finalement, à la fin, vous prenez des substances, que ce soit de l'alcool, du cannabis ou autre, simplement pour sortir d'un état de mal-être, ce qu'on appelle le manque. Et c'est comme ça que ça se construit. Donc c'est une construction cognitive, si je puis dire, c'est une construction biologique.
Oui, c'est ça. Oui,
c'est pas uniquement la volonté qui vous permet d'en sortir parce que vous avez modifié le comportement de votre cerveau. Mais le truc, c'est que ça peut toucher tout le monde.
Bien sûr.
C'est parce que
tous à peu près le même cerveau, en fait.
Oui, mais vous ne savez pas à quoi vous êtes plus ou moins sensible.
C'est ça. Et la dépression, par exemple, il y a des idées reçues aussi sur la dépression. Hein. Il y en a beaucoup, comme quoi ce serait un manque de volonté.
Non, la dépression, c'est un effondrement de la personne dans tous les aspects de son auto-représentation. La personne se dévalue systématiquement, elle n'a plus aucune énergie, elle n'a plus de volonté, justement, mais ce n'est pas une question de volonté, c'est-à-dire, il n'y en a plus. Ouais. Vous pouvez demander à un cul-de-jatte de monter un escalier, il ne pourra pas monter l'escalier, il n'a plus de jambes. Le dépressif, c'est la même chose. Il ne peut pas revenir. Et en plus de ça, on croit que ça passe tout seul, la dépression. Pas du tout. C'est une maladie qui peut être... qui est en plus de ça assez perverse, parce que vous pouvez avoir très bien des petits épisodes, tout le monde a un coup de blues, tout le monde, je veux dire, une période de deuil, c'est compliqué, ça peut durer 2 ans, 3 ans, avec des hauts, des bas, des choses comme ça. Mais ça peut rentrer dans une forme de chronicité, et quand ça rentre dans la chronicité, alors là, plus vous avancez, et plus vous allez mal.
On s'enfonce.
On s'enfonce.
Et ça arrive aussi après un accouchement. Hein. Malheureux. Hein. Alors, la dépression postpartum, par exemple.
Ouais. En fait, on ne se rend pas compte à quel point le déferlement hormonal au moment de l'accouchement est puissant et peut amener à des dérèglements ultérieure, ce qu'on appelle la dépression postpartum. Donc ça peut être un pur dérèglement hormonal qui amène à un état de dépression chronique et qui peut être dramatique parce que la conclusion de la dépression, c'est le suicide ou la catatonie. Le degré ultime, c'est ça, c'est le suicide ou la catatonie. Et le risque suicidaire chez la personne en dépression est extrêmement élevé. Extrêmement élevé, c'est...
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc on est... Et plus on prend en charge tôt une psychopathologie, et en particulier la dépression, et plus la chance de rétablissement et de sortir rapidement de cet état-là est importante. Plus vous retardez la prise en charge, plus les risques d'aggravation et de comorbidité sont là.
Alors, il faut qu'on termine, parce que là, c'est la fin de l'émission, mais il faut qu'on termine sur une note positive, sur ce qui peut être fait pour améliorer l'image de ces maladies psychiques, handicaps psychiques.
Alors, on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas pour améliorer l'image. Alors, pour déconstruire, moi, je vais parler de ma chapelle, puisqu'on est en train de construire ça.
Allez-y.
L'idéal, c'est ce qu'on appelle l'effet tampon. L'effet tampon, c'est que vous rencontrez une personne qui a des troubles et qui va accepter de raconter son histoire. Donc c'est toute la problématique qu'évoquait un peu Orphée sur le dévoilement, hein, qui est un vrai sujet, c'est-à-dire que la personne accepte d'en parler malgré la stigmatisation, ce qui est déjà une démarche courageuse parce qu'il y a des risques. Et à partir de ça, on a un projet qu'on est en train de développer là, qui s'appelle les bibliothèques vivantes. Bibliothèques vivantes, c'est que vous allez avoir l'occasion, lors d'événements dans des médiathèques, de rencontrer des personnes qui racontent leur histoire. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va en 10 minutes, un quart d'heure, vous raconter son histoire et vous pouvez échanger avec elle. Et en fait, c'est une excellente méthode de déconstruction de vos préjugés parce que vous avez une personne en face de vous, vous pouvez dialoguer avec elle, elle va vous parler de ses troubles, de son vécu, de son histoire, vous pouvez lui poser les questions. Alors bien sûr, il y a des règles, hein, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de jugement, il ne faut pas qu'il y ait d'agressivité, mais ça permet en fait vraiment de rencontrer des personnes et d'avoir un effet qui remet en cause vos préjugés parce que vous avez quelqu'un en face de vous et vous pouvez échanger avec cette personne.
Très bien, on attend les dates, alors vous nous direz quand est-ce que ça aura lieu. Merci à tous les deux et puis on vous retrouvera très prochainement sur Radio Évasion.
Merci.